Bonjour, bienvenue dans Underscore. Il ne va pas sans dire que j'adore les surprises et cette fois, je vous laisse découvrir le mystère qui sera votre sujet.
Waouh, bonjour Emmeman.
Bonjour Cécile, ça va? Ah non, ça c'était la semaine dernière.
Salut Cécile, salut
bonjour
Emmeman.
Doudou. Bonjour les auditeurs. Ah oui, parce que cette semaine, on va faire un mystère de ce sujet, mais on vous percera tout ça bientôt.
Hein, bah tout de suite. Parler de tâches, de plein de tâches, de multitâches.
C'est
comment
bien.
Qu'on fait, hein? Vous vous êtes jamais demandé comment qu'on faisait?
Mais oui.
Bon.
Mais tout de suite, passons à l'actualité.
À l'actu, avec les fait-fails du mois.
Les fait-fails, les fait-fails.
Les fait-fails de toi, du mois.
Alors, une nouvelle attaque,
jailbreak pour certains iPhones.
Apple retire de l'App Store une application qui permettait aux manifestants hongkongais de repérer la police.
Ah oui, et puis alors, encore une troisième, hein, chez Apple, ça n'arrête pas. macOS Catalina va supprimer le support 32 bits. Ah oui, mais ça on l'a déjà dit, c'est vrai.
Gros problème de réseau chez Cisco.
Ouais, c'est... Avec Windows Virtual Desktop, Microsoft veut déplacer votre bureau entier dans le cloud. On vous aura prévenu.
Une faille Zero Day déjà exploitée dans Android sur au moins 18 modèles de téléphones.
uBlock Origins ne sera probablement plus utilisable dans Chrome.
Ouais, bah ils ont encore enlevé des trucs dont ils avaient besoin et tout. Donc, ça ne marchera plus. Peut-être.
Et une faille dans Sudo ?
Une faille dans Sudo, oui. Donc, mettez à jour.
Une équipe de chercheurs montre comment identifier si une personne marchant derrière un mur correspond à un enregistrement vidéo grâce à de simples bornes Wi-Fi en comparant leurs démarches.
Ouais, donc on a une vidéo d'un côté, puis on a des bornes Wi-Fi, et puis on récupère du signal, et puis on en déduit la démarche, et puis on peut dire si oui ou non c'est la même personne. Donc on n'a pas besoin de refilmer après pour dire... C'est un peu gênant ça. Déjà qu'on se bat contre la vidéoprotection, mais... enfin protection, avec des gros guillemets.
Surveillance.
Hein. Surveillance, on dit. Une erreur dans un script Python pourrait avoir faussé les résultats de plus de 150 études dites scientifiques. Enfin, sans compter celles qui ne mentionnent pas, parce que même pas le script qu'elles ont utilisé, donc ça fait sûrement plus.
Une faille dans ScreenX ScreenSaver sur Solaris 11.
Ouais, il y a des gens qui doivent encore utiliser ça. Hein.
Des voitures Tesla en panne à cause d'une puce eMMC soudée sur la carte mère. Heureusement, les modèles plus récents utilisent des puces avec plus de place. Sinon, vu le prix, ils auraient pu mettre un SSD qu'on puisse changer ou juste supprimer les logs inutiles du noyau Linux utilisé.
Et ouais, acheter un nom de domaine peut vous emmener en prison.
Waouh, c'est
ouais,
fort ça.
C'est sympa, hein.
Microsoft et Nuance veulent transformer l'expérience docteur-patient et améliorer la productivité tout en permettant aux médecins de se concentrer sur ce qu'ils ont le mieux à faire, prendre soin du patient. Oui, enfin, heureusement, ça sera avec le consentement du patient. Mais du coup, entre deux patients qui consentent, ils débrancheront physiquement le micro pour celui qui ne consent pas.
Qui ne consent pas.
Qui ne consent pas, oui.
Eh oui, ben je sais pas, c'est une question à leur poser. Hein. Mm. Enfin, avant qu'ils branchent le micro, du coup. Une faille est apparue permettant de contourner le système pourtant révolutionnaire de reconnaissance digitale sur le modèle S10 de Samsung, qui donc conseille de tout effacer.
Ah, ça c'est bien, ouais.
Même ses dactylogrammes, je sais pas. Ouais, enfin les empreintes, quoi. Et...
NordVPN confirme s'être fait hacker.
Oups.
Le plus important débouché au déploiement de la 5G dans le monde est la vidéosurveillance. Ah en bah ouais. 2020, les caméras de vidéosurveillance représenteront 70% de tous les objets connectés exploitant la 5G.
Encore une nouvelle méthode pour contrôler Alexa et Google Home et les reconvertir en espions.
Génial.
C'est sympa, hein.
Si vous utilisez des logiciels PHP derrière un serveur Nginx, une faille de sécurité affecte le module PHP-FPM. Certaines installations de Nextcloud sont notamment affectées. Dépêchez-vous d'aller mettre à jour PHP, vos fichiers de configuration.
Docker est incompatible avec les Wi-Fi des trains allemands.
Ouais, c'était encore un bug. Aux US, un algorithme a empêché des millions d'Afro-Américains de bénéficier de soins de santé optimaux parce que bah, y avait des biais.
C'était qui ?
Mais c'est la sécurité informatique des parlementaires français qui serait proche de zéro. C'est vachement étonnant.
Les données personnelles de 7,5 millions d'utilisateurs d'Adobe Creative Cloud exposées par une base Elasticsearch non sécurisée.
Et 50% des sites web utilisent WebAssembly à des fins malveillantes selon une étude de Technische Universität.
Technische Universität Braunschweig.
Braunschweig.
Je ne saurais pas dire.
Voilà.
Et puis alors en Espagne,
La géolocalisation de tous les téléphones mobiles va être observée pendant une semaine pour une étude sur les déplacements, sans le consentement des utilisateurs, bien sûr.
GitHub bloque une application de protestation des Catalans.
Des vulnérabilités dans plusieurs implémentations de chiffrement par courbe elliptique. Mettez à jour.
Une attaque des micros des assistants personnels par des lasers. Et oui, pas besoin de son pour leur parler.
20 000 emplois vont disparaître dans l'industrie informatique indienne.
Une faille dans Epic Game Store donnant accès à tout leur catalogue sans payer. Oh, ça c'est bien ça.
Les données personnelles de clients d'une entreprise de séquençage d'ADN fuitées. Alors, pas, a priori, pas les données d'ADN en eux-mêmes, mais bon, quand même.
L'attaque TPM Fail permet d'extraire les clés des puces de sécurité en 4 à 20 minutes.
Microsoft réclame 24 millions d'euros à une mamie toulousaine pour contrefaçon. Oh, c'est pas bien ça.
Google a déjà accès à des données médicales de dizaines de millions d'Américains par des accords avec plus de 150 hôpitaux aux US.
Piratage de mots de passe de compte d'abonnés Canal+.
L'appli Facebook pour iPhone utiliserait secrètement la caméra lorsque vous naviguez dedans, mais il se pourrait que ce soit juste un bug.
Netflix supprime tous les supports de téléviseurs connectés de 2010 à 2011. Moi, je croyais que leur machin, c'était pour tous les écrans. Quand on vous a dit que le DRM, c'est mal...
Bah voilà, vous avez la réponse. Une petite pause.
Une petite pause, on se retrouve tout de suite après pour votre sujet de multitâche. Comment ça marche ? We'll be right back. Alors, j'arriverai pas à dire, hein. C'est Jogger Liljedahl.
Ouais.
Physical Presence. Donc, c'était un remix de Virgil.
D'accord. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'arrêter, hein.
Non, c'est ça, tellement
passe
bien.
Ça passe bien.
Mais oui.
C'est bon, on pourrait le laisser tourner et puis passer au sujet en même temps, hein. Justement.
On va parler de multitâche.
Ah bah voilà.
Mais comment ça marche ?
Bah ouais, je voulais tenter de vulgariser un petit peu ce qu'on entend par multitâche. Bon, sans forcément donner un cours d'informatique, mais au moins pour vous sachiez que bah c'est pas de la magie, c'est de la technologie.
C'est vrai ça ?
Ouais, il paraît. Bah sauf chez certains fabricants à la pomme. Mais donc bah un petit rappel d'abord, hein, parce qu'on parle de processeur, CPU, OS, noyau, tout ça. Alors un processeur, donc c'est le cerveau, hein, dans l'ordinateur, c'est lui en fait qui fait tout. Hein, plus
cerveau.
Loin. C'est lui, c'est lui qui décide.
Cerveau.
Qui,
voilà.
Et donc
mon
en
CPU.
Fait, c'est le CPU, Central Processing Unit. Et ben bah, il processe. C'est un ordinateur, c'est juste une machine à traiter des données. Et donc un processeur, bah, lui, il sait qu'exécuter des instructions, une longue suite d'instructions plus ou moins monotones. Alors il y a plusieurs catégories d'instructions, il y a les opérations arithmétiques, les déplacements de données, les sauts pour aller ailleurs dans le code, donc pour aller voir d'autres instructions, souvent donc une suite de suivant une condition, par exemple le résultat de la dernière addition, bah, si le résultat ça donne 0, on fait ça, sinon on fait autre chose. Cependant, il existe des mécanismes dans la plupart des processeurs permettant de mettre ce qu'on fait de côté temporairement pour faire autre chose, puis de revenir à la tâche initiale. Le plus courant est l'interruption. Lorsqu'une interruption arrive, ou plutôt lorsqu'elle est traitée, c'est-à-dire habituellement entre les instructions, voilà, et pendant que Roudoudou fait tomber son micro, là, je continue.
Ouais, j'ai piqué du nez, alors le micro est parti avec.
Ah, voilà. Un petit café, Jean-Pierre.
Voilà.
Donc, restaurons le contexte. Ah bah oui, justement, voilà. Donc, c'est-à-dire, donc, lorsqu'une interruption arrive, ou plutôt lorsqu'elle est traitée, c'est-à-dire habituellement entre les instructions, le processeur va sauver un minimum de contexte, c'est-à-dire au minimum l'adresse de la prochaine instruction qu'il aurait dû exécuter s'il n'avait pas géré l'interruption.
Sauver ou sauvegarder ?
Alors, ouais, c'est une bonne question. Il va le sauvegarder, il va le sauver quelque part, il va faire une copie. Et donc, au minimum, voilà, l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Et l'adresse de la pile, donc ça, c'est une partie de la mémoire où on stocke généralement les arguments des fonctions, les variables locales du programme. Donc, c'est un morceau de mémoire où il y a des données qui servent au programme. Alors, on parle aussi d'exception. Alors, en fait, souvent, l'interruption désigne une sous-catégorie des exceptions, réservée aux exceptions d'origine matérielle. Par exemple, la souris a bougé, donc elle a envoyé une donnée à l'ordinateur. Il faut que le pilote aille lire cette donnée pour savoir que la souris s'est déplacée de 1 cm à droite, ou enfin, un peu moins en général. Et d'autres sources d'exceptions peuvent être les erreurs mathématiques. Ouais, on vous a dit de ne pas diviser par zéro au fond de la classe.
C'est déjà très vieux ce principe. Je me souviens d'avoir parlé de l'ordinateur qui était dans l'Apollo 11 ou 13, c'est ça ?
Ouais, bah, Apollo 11. Ouais, c'est un classique. Quand il y a une erreur, il faut la traiter. Alors, un moyen, c'est de générer une exception. Ou alors ça peut être même une source logicielle, puisque certaines instructions servent justement à déclencher une exception. L'intérêt, c'est que lorsque le processeur traite une exception, il a en général plus de privilèges. C'est donc une méthode très utilisée pour appeler le système d'exploitation depuis un simple programme. Alors un système d'exploitation, c'est un
Windows.
Programme. Bah ouais, oui ou non, ça dépend de quand ça date. Donc un système d'exploitation, c'est un programme, donc un ensemble d'instructions.
Ouais, c'est un système qui exploite les utilisateurs, c'est ça ?
Ouais, c'est quoi ton système d'exploitation ? Bah le capitalisme.
Ah oui.
Donc voilà, un programme, un ensemble d'instructions qui vont permettre à d'autres programmes de s'exécuter facilement avec une interface uniforme pour ces programmes-là. Donc un ensemble d'appels qui sont plus ou moins normalisés. Souvent, les programmes qui lui délèguent la gestion des fichiers et plein d'autres choses. Le noyau est ce qui constitue le chef d'orchestre du système d'exploitation, de l'OS. C'est lui qui va décider de l'ordre dans lequel les entrées-sorties vont se faire ou les programmes s'exécuter. Alors une petite subtilité qui est difficile à comprendre ici, même si on dit qu'un programme s'exécute, en fait c'est bien le processeur qui exécute les opérations au nom du programme. C'est toujours le processeur qui exécute les instructions. Donc quand on dit qu'un programme s'exécute ou qu'un programme tourne, en fait c'est le processeur qui lit les instructions qu'il y a dans le programme et qui les exécute les unes à la suite des autres, ou pas. Donc ça vaut pour les applications, mais aussi pour l'OS et son noyau. Et lorsque l'on dit que l'on rentre dans le noyau, qu'on appelle le noyau, en fait, on demande au processeur d'exécuter une fonction dans ce noyau-là, donc exécuter toutes les instructions qui sont dans cette fonction, mais avec les privilèges requis, c'est-à-dire après s'être assuré qu'on avait vraiment le droit d'appeler le noyau. En général, comme on l'a dit, c'est avec une instruction qui déclenche une exception. Il y en a deux qui suivent.
Hein. Oui, bah oui. Voilà. Ouais, on est là, oui.
Donc là, bah, au tout début, il y avait le monotâche. Hein, les OS se contentaient de permettre de lancer d'autres programmes et de leur fournir une interface pour qu'ils accèdent aux fichiers, à l'écran, au clavier. C'est le cas des DOS, Disk Operating System, dont le nom indique qu'ils ne servent qu'à ça.
Bah oui, hein, comme MS-DOS.
Voilà.
Bah, à l'époque où sur Atari ou Amiga, on était déjà dans le multitâche.
Alors sur Atari, oui et non, parce qu'il y avait un DOS aussi, il y avait GM-DOS et tout. En fait, il y a plusieurs couches. Et c'est là où, je vais en parler après. Le DOS chargeait un programme en mémoire, puis il lui passait la main, c'est-à-dire qu'il utilisait une instruction du processeur pour qu'il exécute ce programme. Souvent, c'est un simple saut vers la première instruction du programme, puisqu'il n'y avait aucune protection de mémoire, donc il n'y avait pas de ça à gérer. Donc pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps, bah, il fallait ruser. L'astuce consiste donc à lancer un premier programme qui va installer un gestionnaire d'interruption. En fait, c'est un petit bout de code qui en général appelle le gestionnaire existant, pour une interruption, une exception spécifique. Par exemple, celle de l'horloge, qui donc sera déclenchée régulièrement. Puis, ce programme-là, il va rendre la main au DOS avant de s'être bien assuré qu'il ne libère pas la partie de la mémoire qui contient le gestionnaire. Parce que si on dit « Ouais, ça y est, j'ai terminé, mais j'ai terminé, mais tu me gardes ça dans un coin, s'il te plaît. » C'est ce qu'on appelle un TSR, Terminate and Stay Resident. Donc en fait, il finit, mais en fait, il garde une partie en mémoire. Et du coup, une même interruption peut être détournée plusieurs fois, en fait, en chaînant les gestionnaires d'interruption. Ensuite, le DOS, bah, lui, il continue comme si de rien n'était et puis lancer un autre programme. Sauf qu'à chaque fois que l'horloge générera une interruption, le processeur, bah, il va arrêter son travail. Donc, il était dans le deuxième programme qu'on a lancé. Il passera à la première instruction du premier gestionnaire qui va faire tout plein de trucs, la deuxième, etc. Et puis, la première instruction du second gestionnaire et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une instruction qui lui dise « Ah, en fait, ça y est, on a fini de gérer l'interruption, tu peux reprendre le programme, donc le deuxième programme qu'on a lancé. »
Un peu comme une maman dans une cuisine qui fait à la bouffe, qui s'occupe des gamins et tout.
Bah voilà, elle commence un truc, puis il y a le gamin qui arrive et il dit « Ça, c'est une interruption. »
Voilà.
Donc tu sauvegardes le contexte, tu dis « Attends, je pose ma cuillère et tout, puis qu'est-ce qui t'arrive ?» Et puis après, faut reprendre la cuillère. Donc ça, certains TSR ajoutaient des fonctions au DOS qui n'étaient pas supportées avant, ou alors affichaient juste l'heure à l'écran, ça pouvait être juste ça. Puis après, on a inventé le multitâche coopératif. Donc des gens se sont dit que ce serait bien si des programmes pouvaient coexister normalement sans devoir bidouiller. Ils ont créé des OS permettant aux applications de leur dire quand elles étaient d'accord pour qu'une autre puisse bosser. Bien sûr, il faut que les applications se comportent correctement et soient architecturées pour.
Et non, pas comme certaines applications, comme les enfants qui te disent tous les 3 secondes « Maman, voilà. Maman !» C'est pas, absolument pas une situation.
Tu flottes mon interruption, là, s'il te plaît.
Mais oui.
C'est ça, bah oui. Ah, tu flottes mon interruption, là. Donc, voilà. Pour ça, il faut quand même que les applications elles, se comportent correctement parce que sinon, ça marche moins bien. La méthode classique est d'écrire l'application avec ce qu'on appelle une boucle d'événements, c'est-à-dire qu'après avoir initialisé ce dont elle a besoin, donc ouvrir des fichiers et tout, ou plutôt vous l'avez compris, le processeur va, l'application, ou alors vous l'avez compris, le processeur en son nom va exécuter une suite d'instructions qui vont demander à l'OS si elle a quelque chose à faire, c'est l'application, est-ce qu'elle a quelque chose à faire, non. Bon, d'accord. Ou sinon, il y a quelque chose à faire. Bon, on va traiter cet événement. Puis après, on va reboucler. Est-ce que j'ai encore quelque chose à faire ? Oui, je traite l'événement, etc. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'événements à traiter. Là, l'application se termine. Et donc, souvent, c'est fait au niveau de l'interface graphique parce que, justement, il y avait besoin, vu qu'on voulait mettre plusieurs fenêtres à l'écran, il y avait besoin de pouvoir lancer plusieurs applications. Et donc, chaque application est constituée d'une boucle d'événements comme ça. Donc c'est ainsi que les premiers Windows, qui étaient encore juste des interfaces graphiques pour DOS à l'époque et pas des OS complets, fonctionnent. Mais aussi la plupart des OS de l'époque, hein, macOS, le GEM d'Atari, c'est exactement pareil, c'est des boucles d'événements. Et la couche, donc l'interface graphique OS, qui met à disposition un ensemble de fonctions, dont certaines vont explicitement autoriser que l'application soit stoppée pour qu'une autre prenne son travail. Ici encore c'est toujours le processeur qui exécute tout ça, hein. C'est pas les applications, elles n'ont pas de conscience. Si chaque application traite les messages rapidement, on peut donner l'illusion que ça marche à peu près dans l'ensemble. Bon, à l'époque, on avait des contenus, des fenêtres qui ne changeaient pas trop, donc c'était pas trop gênant. L'avantage, c'est que c'est simple à coder. L'inconvénient, bah, si une application ne coopère pas, bah, elle bloque.
Elle bloque.
Elle bloque que tout le monde, voilà. De plus, et certains traitements ne sont pas facilement découpables pour laisser aux autres applications un peu de temps. Donc, des fois, bah, y avait une fenêtre qui dit bah, « je suis en train de faire un truc » et tu ne peux plus rien faire d'autre. Donc, du coup, il y en a qui se sont dit ouais, « on va faire les choses autrement » et ils ont inventé le multitâche préemptif. Et donc, ils se sont dit qu'il valait mieux que les applications croient qu'elles tournent tout le temps. Mais en fait, c'est pas vrai. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser le même mécanisme des exceptions qu'on a vu précédemment pour régulièrement, ou pas d'ailleurs, ça s'appelle le tickless, c'est Linux qui l'a inventé, mais BIOS le faisait il y a 20 ans, interrompre l'application en cours. Donc le noyau va sauvegarder le contexte entier de l'application, donc les valeurs des registres non privilégiés, l'adresse actuelle de la pile, tout plein de trucs. L'ordonnanceur choisit ensuite quelle application va reprendre, donc il va dire « ouais, celle-là, elle est pressée, on va passer à celle-là ». Et là, à ce moment-là, le processeur va restaurer le contexte de l'application, et puis bah, va lui donner la main. En fait, il y a une instruction qui va dire « on a terminé de gérer l'exception et tu peux reprendre ce que tu faisais ». Sauf qu'en fait, avant d'entrer de gérer l'exception, on était dans l'application A, et en sortant de l'exception, on était dans l'application B. Et en fait, l'application B, elle croit qu'il ne s'est rien passé, elle croit qu'elle était dans l'instruction précédente.
C'est magique, hein.
C'est magique. Non, c'est technologique. Et si on fait ça très vite, bah, chaque application fonctionne comme si elle avait un processeur entier pour elle, mais juste plus lent.
Donc, ils ne sont pas jaloux, finalement.
Bah, normalement, ils ne sont pas jaloux.
C'est peut-être pour ça, maintenant, qu'on a des bicœurs, des quadricœurs, des octocœurs.
Alors, ça vient après. Parce que, ouais, ça vient après. Alors, ça, c'est ce que fait, par exemple, Amiga OS, qui était préemptif. Donc, chaque application pouvait faire ce qu'elle voulait, mais les autres aussi. Donc, on dit que le noyau préempte les applications. C'est-à-dire, ah, attends, deux secondes, je fais un truc, il y a une autre qui fait ça, etc. Alors maintenant, les noyaux, la plupart, sont eux-mêmes souvent préemptifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi eux-mêmes s'interrompre pour faire autre chose. Donc ça complexifie le code, mais ça permet d'être plus fluide. Et puis, il y a le multithreading, en fait, c'est à peu près la même chose, mais à l'intérieur d'une même application. C'est-à-dire que les threads, qui sont en fait des contextes d'exécution, mais partagent le même contexte de l'application. Et puis, bah, t'as parlé de plusieurs processeurs, mais ouais, là, jusqu'ici, j'ai parlé d'un seul processeur au singulier. Hein. Il donne l'illusion qu'il fait plusieurs trucs en même temps, mais c'est pas vrai. Et puis, pendant longtemps, les processeurs, il n'y avait qu'un seul cœur. Voilà. Donc, on a voulu utiliser plusieurs processeurs, on a inventé le SMP. Donc là, c'est tout pareil, mais sauf que bah, il faut être sûr que les processeurs, ils ne s'interrompent pas dans certaines sections critiques et tout.
Alors, pourquoi multiprocesseur ? Parce que si technologiquement, on arrive dans un environnement où on est de plus en plus petit, et que technologiquement, on est vraiment extrêmement réduit. Donc, comme on a une contrainte physique aujourd'hui, on aura plus tendance à multiplier le nombre de processeurs, non ?
Alors ça, c'est par rapport à la fréquence. On ne peut pas en fait, faire des processeurs qui tournent plus vite que ce qu'on fait maintenant. Donc en fait, on fait des cœurs à côté qui font des trucs en parallèle. Sauf que du coup, il faut que les applications et l'OS soient prévues pour. Sinon, bah, ça tourne que sur un seul cœur et les autres, ils foutent rien, quoi. Mais c'est ça, c'est une autre histoire. On fait une petite pause.
Petite pause, effectivement, une petite musique avant de se retrouver pour l'agenda. J'espère qu'on vous a retrouvé. C'était Virgil Angrenerds. Nous allons passer à l'agenda. Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Le RGC, le Retro Gaming Connection, le 30 novembre et le 1er décembre au Colisée de Meaux, la nouvelle salle des fêtes de Meaux, du samedi 10 au dimanche 18h.
Le premier contribatelier grenoblois. Fini la consommation, passons à la contribution. Que vous soyez familier du code ou novice du numérique, cet atelier vous propose de découvrir comment contribuer au logiciel et à la culture libre dans la convivialité d'un apéro partagé. C'est un atelier organisé par Framasoft, donc c'est sur inscription, sur le Framaform. Il y aura le lundi 2 décembre, 18h30 à 21h, et la Turbine Coupe.
C'est donc à la Turbine
5 Explanades, Andry Farcy à Grenoble.
Oui. Et justement, je vais vous parler de contribution à la prochaine émission.
Mais oui. Alors, nous frottons la boule de cristal. Que vois-tu? Que vois-tu? Oh, Sysadmin, il s'est fait lapider. Connexion reset par Pierre.
Technophile, j'ai une couette USB. Quel que soit le sens où je la mets dans OUS, c'est le mauvais.
Dans la OUS, moi. Hacker, quand Chuck Norris se log sous Linux, son UID est moins 1.
Codeur, qui prend le dos
le
sur
Edo. Sur
Microsoft, c'est Casper le gentil fantôme. Ouais, enfin, un gentil sauf au sport d'hiver, parce que Kaspersky.
Procrastinateur, Marguerite Duras, elle est restée coincée sur la page blanche.
Oh là 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 là, terrible, terrible les amis. Eh bien, merci les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cette émission sera trouvée sur le podcast de AAA.fr. Et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour...
parler de contributions.
Mais oui, à bientôt.
Salut.